D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisque on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzig. En 1853 avait lieu la première corrida en France. Un poète en a fait le compte-rendu dans un journal. Ce poète, c'est Théophile Gautier. Je lui prête ma bouche, voici ce qu'il a vu. Tout le monde doré de la saison des bains se trouvait là. Bagnères, Barèges, Luchon, les Aubonnes, Cotterêts, Biarritz avaient fourni leur contingent. Les hôtels regorgeaient. Toutes les chambres disponibles étaient prises. Beaucoup de gens couchèrent dans leurs voitures. D'autres eurent pour abri des écuries ou des étables. Un jeune diplomate de nos amis nous donna ainsi son adresse. Première botte de paille, quatrième vache à droite. Les billets pour les trois courses se disputaient à des prix fort élevés. Tout ça se passe à Bayonne. On se serait cru à une première représentation parisienne, au Nabab par exemple, partout des visages de connaissances. Avant d'être arrivés à notre place, nous avions déjà échangé plus de 20 saluts. Des toilettes de l'élégance la plus recherchée s'étalaient au bord des loges, et les petites mains gantées juste pressées sous des mouchoirs de dentelle de 1000 écus, des flacons de sel anglais apportés à tout hasard en cas d'évanouissement. Précaution inutile, car deux messieurs seulement se trouvèrent mal à la honte du sexe le plus gracieux et le plus tendre. Il faisait une chaleur atroce, et les éventails palpitaient comme des papillons cherchant à se poser sur des fleurs. Aux places inférieures, éclairées par un vif soleil, se pressait tout un monde de têtes brunes et caractéristiques portant le béret local. Les Basques et les Landais sont, comme on sait, grands amateurs de courses. Cette passion du taureau, continue Théophile Gautier, est commune à tous les peuples du Midi. Les races catholiques à langue latine ont gardé cet antique goût romain du cirque, objet d'horreur pour les races saxonnes et protestantes. Malgré la cherté du prix des places, ils étaient là, pâtres, bouviers, paysans, suivant les phases de course avec une intelligence et une furia tout espagnole, appréciant les beaux coups et sifflant les mauvais. L'autorité, fort sage en cela, sans rendre la course impossible par des prohibitions ridicules, avait recommandé de ménager un peu la susceptibilité française. On avait choisi pour le premier jour les taureaux les plus jeunes, et les picadors tenaient leurs lances un peu longues pour éviter ces éventrements de chevaux que l'animation et le péril de la lutte peuvent seuls faire supporter même aux aficionados, et les 6 taureaux furent dépêchés régulièrement sans trop grande effusion de sang. À l'occasion de l'ouverture de la saison des corridas en Espagne, je reçois pour en parler Florence Delay, écrivain, membre de l'Académie française, auteur entre autres de « Mon Espagne hors et ciel » et traductrice de « La solitude sonore du toréo » de Rosé Bergamy. Florence Delay, je voudrais, si vous le voulez bien, que nous essayions de parler de la corrida en essayant d'éviter ce qui est son défaut parfois, c'est-à-dire le lyrisme et la magie, et d'en parler de manière esthétique. Alors, est-ce que vous voudriez me dire si pour vous, il existe une esthétique générale de la corrida, qu'est-ce que ça serait pour vous?
Comme tout art, la corrida a ses artistes, et qui ne sont pas les mêmes. Et il y a des écoles, des mouvements, des familles de toreros. Entre parenthèses, là, je trouve qu'il est époustouflant, Théophile Gautier. Comme d'habitude, il a tout vu. Alors, ce qui est difficile, la corrida est difficile à définir parce que elle est un sport et n'est pas un sport.
Ça vient du verbe courir, n'est-ce pas, en espagnol, le mot
ou la course.
C'est ça, la
oui.
course.
Corrida.
Donc
courir.
Ça désigne un sport plutôt.
Le sport, il est dans les vertus qu'il demande, de souffle, des vertus de l'intelligence aussi, la force des chevaux, comment dire, l'acuité du geste du picador, puisque en principe le picador doit piquer à un endroit indolore. Le banderillero qui doit courir à toute allure pour planter les banderilles doit avoir un souffle d'enfer. Donc il y a un aspect sportif.
Bon. Pardon, je vous interromps. Oui. Le picador est là pour fatiguer le taureau, n'est-ce pas?
Le picador est là pour le fatiguer. Parce que, si vous voulez, entre en piste une bête de 500 kilos devant un homme de 50 kilos. Je veux dire, là, il y a deux forces qui sont... Et donc, en principe, mais c'est parfois très mal fait, le picador est là, comme avec son image tant de fois peinte par Picasso, ce picador qui ressemble à Sancho Panza, finalement, et qui doit donner un coup sans jamais tourner sa pique, un coup précis dans la nuque, dans un endroit qui est en fait pas plus grand qu'un mouchoir de poche. Voilà, donc
Ça, c'est l'élément sportif, alors, plutôt, les caractéristiques plutôt sportives.
Oui, je crois que cela requiert chaque taureau, chaque combat avec un taureau qui dure environ 15 minutes, parce que tout est extrêmement réglementé, justement pour limiter la souffrance ou la paresse, à la fois les deux excès. Alors, devant des qualités sportives, en même temps, ce n'est pas ça. C'est un art dont qui a ses artistes, ses figuras, ses figures. Donc, il y a plusieurs façons de les classer. Il y a les classifications des Espagnols, surtout, qui est le lidiador et el artista. Alors, le lidiador, c'est du mot lidia, combat. C'est celui qui, quoi qu'il arrive, mènera au bout son contrat et fera au mieux.
Là, nous parlons du côté du torero, n'est-ce pas ?
Du torero. L'artiste est quelqu'un qui peut se faire bombarder de coussins et agonir d'injures, parce que l'artiste, il faut que le taureau lui plaise, et vice-versa. On sent très bien, à un moment donné, quelque chose qui se passe entre l'homme et la bête, et ça, c'est les grands moments de quand la sauvagerie a été domptée et que quelque chose de finalement doux se passe entre l'homme et la bête. Alors les artistes dépendent terriblement et du taureau.
Et de leur humeur peut-être.
Et de leur humeur. Et certains très grands artistes andalous ont vécu des martyrs dans l'arène. Quelquefois,
de bronca,
l'arène est si furieuse qu'ils sont obligés de sortir entre les gardes civils pour se protéger des bombardements. Voilà.
Et donc, pour vous, Florence Dolé, quel serait, donnez-moi des noms de l'une et l'autre catégorie pour bien illustrer quels seraient les grands toreros, artistes ou bien techniciens d'après vous.
Alors, un technicien admirable est El Juli. Qui remplissait toujours sa mission. Même César Rincón, le torero péruvien, était à la fois un artiste et un lidiador. C'est-à-dire qu'il remplissait son contrat.
Et dans les artistes purs,
alors les artistes purs, c'est évidemment la famille que je préfère. Elle est très andalouse. Il y a Rafael de Paola. Il y a Curro Romero. Curro Romero qui a parfois refusé de torer un taureau.
Parce qu'il le trouvait pas bon ?
Il le sentait pas.
On a le droit, ça, on a le droit de...
En fait, on n'a pas le droit.
Mais
on le prend. Il m'a été donné d'assister à ma première corrida à Bayonne, que vous citiez tout à l'heure. Bayonne, qui est la première ville taurine de France. Dans un mano à mano, c'est-à-dire deux toreros ayant devant torer chacun trois, parce que d'habitude, c'est trois toreros ayant chacun deux taureaux. Et c'était un mano à mano en 1959, entre deux beaux-frères célèbres, Luis Miguel Dominguín, qui était l'époux de la belle Lucia Bosé, et Antonio Ordóñez, qui était son beau-frère. Et là, c'était, si vous voulez, enfin, ressortait le tempérament artiste de l'un, qui était Ordóñez, et le contrat élégant est tenu par Dominguín. C'était très frappant.
Dites-moi, Florence Dolé, est-ce que quelle est l'intention ou le but d'une corrida ? Est-ce que c'est parce que, comme elle est conclue par une mort, les gens pourraient croire que l'intention de la corrida, c'est la mort ? Est-ce que vous diriez que c'est plutôt une danse ? Car je crois que le meilleur torero est celui qui réussit à tirer du taureau des mouvements, un certain nombre de mouvements, alors que le taureau aurait plutôt tendance à être une bête statique ou à foncer.
Écoutez, moi je vois la corrida comme une cérémonie, d'abord, une des rares cérémonies qui nous reste, et ensuite comme une leçon, une leçon qui nous apprend le courage, la grâce, et à travers un vieux rite millénaire qui est l'affrontement de l'homme et du taureau qui remonte, qui a des siècles et des siècles. Et en même temps, cérémonie, parce que tout est extrêmement réglé. Le cortège qui présente le paseo, puis ensuite les clarines qui annoncent la sortie du toril du taureau, je veux dire, la suerte, c'est-à-dire les trois grands moments pour chaque taureau sont minutés. Au bout de certains moments, il y a les trompettes qui montrent que c'est fini, la suerte des piques est finie, la suerte des banderilles est finie, et ce règlement que le public, si le président de la corrida laisse dépasser de 2 minutes telle suerte, c'est...
Protestation.
Bon. C'est en ce sens qu'il y a un cérémoniel et aussi, tout simplement, cette cérémonie de la vie et de la mort. Parce que le taureau brave est tué, bien sûr, la mort est glorieuse pour l'un et l'autre, si au premier coup d'épée, le taureau tombe.
Pourtant, tous les pays ne pratiquent pas la mise à mort, n'est-ce pas?
Non, il y a la très belle corrida portugaise, la corrida à cheval, qui est une très belle variante. Non, la corrida s'est beaucoup répandue en Amérique latine. En Amérique latine, il y a eu des moments, enfin, la réglementation des corridas a changé avec le temps. Elle a été fixée au XVIIIe siècle.
Elle est fixée pour tous les pays ou par pays? Comment ça se passe?
Ça, je ne saurais pas vous répondre. En tout cas, je crois que le règlement espagnol est celui qui fait loi, sauf pour la corrida portugaise. Et par exemple, à l'époque de Gautier, il y avait quelque chose d'abominable, qui était que les chevaux n'étaient pas caparaçonnés. Et il y a eu un règlement pour le caparaçon des chevaux, qui donc maintenant ne sont plus
éventrés.
Éventrés, ce qui était une espèce de... De même, les banderilles, à une époque, étaient noires et crépitantes de feu. Bon, ça a été fini.
Florence Delay, vous avez écrit un livre qui est un beau livre et qui porte le beau titre de L'insuccès de la fête. Il me semble que parfois, dans la corrida, il y a un grand insuccès de la fête, c'est que plus souvent, la corrida est médiocre que prodigieuse. Alors, quand elle est prodigieuse, elle est particulièrement prodigieuse, mais est-ce que je me trompe en disant que... Il n'y a pas de médiocrité, c'est ou tout l'un ou tout l'autre, et plutôt...
Vous avez tout à fait raison. De toute façon, le nombre de corridas décevantes et d'ennuis, et c'est très curieux d'ailleurs.
Comment expliquez-vous ça?
La patience d'attendre un miracle. Je crois qu'aller à la corrida, c'est attendre un miracle. Et il arrive.
Nous allons maintenant entendre un extrait du film de Pedro Almodovar, Matador.
Aujourd'hui, nous allons parler de la mise à mort.
Si le
taureau se comporte avec bravoure,
vous
devez le tuer proprement.
Porque matarlo mal es una
sinon, c'est la honte pour le torero comme pour le taureau.
Para el torero porque no hace honor a su
le matador doit matador. Faire honneur à son nom.
Y para el toro porque entonces se
et respecter le courage et la bravoure du taureau.
Cuando aparece en el ruedo,
quand il entre dans l'arène, le torero juge le taureau pour savoir comment il doit l'affronter et de quelle manière la bête va le charger.
Una buena estocada siempre
une bonne estocade dépend toujours d'une bonne faena.
Toda gran faena.
Dans toute bonne faena, il y a un instant où le taureau sent qu'il va mourir et attend la mise à mort.
La estocada, como mandan los
l'épée, comme l'exige la règle, doit s'enfoncer à la base du cou,
donde se juntan
juste entre les deux omoplates.
A este hueco.
Ce point se précis
llama el hoyo de las agujas.
Le trou des aiguillons.
No tiene que ser ni tendida, ni
l'épée ne doit être ni à plat ni perpendiculaire. Elle doit être bien dirigée pour atteindre le cœur et les poumons.
Hay tres suertes fundamentales.
Il y a trois choses essentielles dans une mise à mort.
La primera es matar recibiendo.
D'abord, bien fixer le taureau.
Para entrar a matar, hay que poner el brazo
ensuite, le bras doit être en angle droit.
Y que el estoque sea una
et l'épée se trouver dans le prolongement du
la
bras.
Mano,
la main
à, l'altura del corazon.
À la hauteur du cœur.
Al clavar el estoque, hay que hacer
et
la cruz.
Ne pas oublier de faire la croix.
Torero que no hace
celui
la cruz,
qui l'oublie, le diable l'emporte.
Y despacio, adelantamos
lentement,
la muleta hocico del
on approche la cape du museau du taureau pour qu'il se rapproche.
Y mientras, sin apartar los ojos del
morrillo, yeux la base de son
hundimos todo el estoque.
Et on enfonce l'épée entre les deux omoplates.
Pero no creáis que esto es suficiente.
Mais ça n'est pas
porque para matar un toro bravo,
pour tuer un taureau comme il le mérite, il faut non seulement le faire avec votre épée,
con el corazón,
mais également avec votre cœur.
Tu no te desnudas?
Yo no llevo nada.
Bueno.
Florence Delay, je disais au début de cette émission que je voudrais que la deuxième partie porte sur l'esthétique plus générale de la corrida, les conséquences esthétiques de la corrida. Vous avez traduit un livre important de Bergamin qui s'appelle « La solitude sonore du toréo », qui date, je crois, de 81 et votre traduction de 1989. Alors, ce qui me frappe en lisant ce livre, c'est que, à côté de ses immenses qualités, Bergamin est souvent vague. Il fait appel aux mots magie, prodige, chant. Est-ce que ça vous a frappé aussi qu'ils n'ont pas des mots précis, au fond ?
Alors, il fait appel à ces mots-là dans ce livre à propos de très rares corridas. Parce que quand le miracle arrive, il n'y a pas d'autre mot. Et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Il s'est passé un miracle le 16 septembre dernier à Nîmes, où José Tomás a toré seul 6 taureaux. Et la presse, les critiques taurins, les spectateurs, 16 000, n'ont pas trouvé de mots. Alors, il y a eu ceux qui ont évoqué Rome. Dans le Colisée romain, Ave José Tomás. Bon, ça a été Rome. Les autres, ça a été le paradis, la voix du ciel. Apocalypse Now, in Nîmes. Il y a eu tout un vocabulaire, soit chrétien, soit romain, parce que, à part les mots magie, indescriptible, indicible, voilà.
Vous y étiez, vous ?
Oui.
Et alors, quel mot emploieriez-vous ?
Ah, moi, écoutez, je crois que c'est un des plus beaux matins de ma vie. Voilà. J'en ai peut-être eu deux ou trois comme ça, je veux dire, bon, que voulez-vous ? La moitié de la reine pleurait. Vous me disiez que souvent, Bergamin n'avait pas de mots. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que, justement, le lexique taurin est un des lexiques les plus riches qui soit. Et comme il est essentiellement espagnol, les critiques taurins du sud-ouest, du côté de Nîmes ou de Bayonne, ont inventé une langue double qui, moi, personnellement, m'enchante. Et un de mes grands plaisirs l'été, c'est de lire à haute voix les chroniques à mes amis, même s'ils ne connaissent rien à la corrida, ils sont sensibles à une espèce de langue nouvelle, mélangeant les choses et d'une précision extraordinaire.
Vous citeriez qui parmi ces chroniqueurs ? Il y a Marmande, mais Marmande écrit au Monde, plutôt,
il
je crois.
Il écrit dans le Monde. Il y a parfois Marmande et parfois inspiré. Le critique habituel du journal Sud-Ouest est Socato. Et Socato, je ne sais pas, c'est un des grands écrivains, à mon avis, du siècle. Mais évidemment, toujours sur des taureaux, oui. Toujours sur des toreros.
Et donc, Florence Delay, la corrida a sa rhétorique. On sait très bien que vous avez parlé des swerts tout à l'heure. Il y a aussi un certain nombre de passes qui sont prédéfinies, qui portent leur nom, la Véronique, etc.
Oui. Et toutes les passes inventées par des toreros qui portent leur nom.
Par exemple ?
La Manoletina, la Gaonera. Parce que, bon, il y a un apport permanent au mystère de la corrida, avec ses figures, la plus belle étant, la plus simple, qui est la naturelle.
Et elle est comment ?
Elle est de la main gauche. Mm-hmm. Elle fait passer le taureau de la main gauche, ce qui est le plus difficile, parce que la corne, à ce moment-là, effleure de très très près le corps de l'homme.
C'est très intéressant ce que vous dites, car je vais revenir à une phrase de Bergamin dans le livre que vous avez traduit, pour montrer peut-être que tout n'est pas que rhétorique, précisément. Il dit... Quand Juan Belmonte parlait, il parle de sa parole, un léger bégaiement donnait à ses phrases un sens plus court et plus serré, comme s'il torait. Il parlait, ai-je dit une fois, par demi-véronique ou esquive. Eh bien, cette phrase m'a beaucoup frappé car ça m'a rappelé une phrase de Paul Morand dans le journal d'un attaché d'ambassade où il parle de Proust et où il dit que Proust se mettait à parler en Proust en faisant des phrases très très longues. C'est-à-dire que l'art influe l'homme. Est-ce que vous diriez ça ?
Ah oui, je trouve que c'est un rapprochement... extrêmement fertile que vous venez de faire. Il y a des écrivains parfums d'esquive. Hein, c'est un art. Et puisque vous parlez Belmonte, je rappellerai ce mot pour quand même célébrer le courage de l'homme. Le torero n'est pas un footballeur. Il ne va pas dans l'arène avec un ballon. Et à un jeune homme qui voulait être torero, et qui lui disait comment faire, Belmonte répond « Oublie que tu as un corps ». Et cette phrase est phénoménale. Et elle a été finalement reprise par José Tomás, qui est le plus grand aujourd'hui, le plus grand des grands, qui dit « Quand je vais te réer, je laisse mon corps à l'hôtel ».
Ah oui.
Ça, c'est pour la leçon dont je parlais tout à l'heure. La leçon de courage et savoir aussi que l'on t'aurait au péril de sa vie. Je veux dire, la liste est très longue. J'avais écrit un petit livre qui s'appelait « Œillets rouges sur le sable » pour faire la liste, justement. Et remarquer aussi que le torero qui tue un torero devient fameux. Personne n'oublie son prénom.
Je crois que c'est Belmonte, mais vous me corrigerez peut-être, car c'est peut-être Hemingway qui dit « Le bon torero entre dans l'arène déjà mort ». Je crois que c'est... Je ne sais plus si c'est Bergamin ou Hemingway.
Ce n'est pas Bergamin.
Alors c'est Hemingway.
Oui, ou c'est peut-être Dominguin à Hemingway.
Ah, Dominguin à Hemingway, vous avez raison.
Vous voyez.
Et donc, ça veut dire quoi?
Il joue le tout pour le tout. C'est-à-dire, il sait qu'il peut arriver un coup de corde mortel.
Donc, au fond, la corrida, c'est l'art le plus égoïste qui existe. C'est juste pour un homme pour prouver qu'il est plus courageux que tout le monde.
Pas du tout. C'est un homme qui fait cela par art, comme un danseur danse, pas pour lui-même, mais pour les autres. C'est une représentation. C'est comme si vous disiez qu'un prêtre dit la messe pour lui tout seul. Il l'a dit pour les fidèles. Et nous sommes les fidèles.
Et quelle est la croyance dans la corrida?
La croyance dans la corrida, c'est ne pas craindre la mort. C'est l'affronter, affronter sa propre peur, parce que moi j'ai tout le temps peur. J'ai peur que le torero soit blessé et j'ai peur que le taureau soit mal piqué et souffre. Bon. Mais c'est une leçon, je veux dire, c'est comment apprendre à mourir aussi, je veux dire, il y a quelque chose de très périlleux, et c'est ça qui a tellement frappé Michel Léris dans ce texte célèbre de la tauromachie considérée, enfin,
de la littérature
considérée comme une tauromachie, quand il dit au seuil de l'âge d'homme que finalement un écrivain qui n'affronte pas dans son livre une corne de taureau peut aussi bien ne pas écrire. Et il voit donc un enjeu dans la littérature, le même enjeu, affronter une corne de taureau.
Oui, lui disait qu'il faisait ça en mettant à nu des choses sentimentales ou sexuelles et que c'était l'équivalent pour lui de la prise de risque du torero, c'est ça?
Oui, parce que de toute façon, je vais vous dire, Michel Léris, je n'ai pas une grande, grande foi dans les textes taurins de Michel Léris.
Pourquoi?
Parce que je le trouve trop dans le côté sinistre, la main gauche qui la sinistra, je le vois trop sombre. Moi, on peut le style Manolete, Belmonte, est un style sombre et pathétique. Mais moi, je suis du côté de la joie et j'aime les Joselito, j'aime...
Et parmi les écrivains qui écrivent de la corrida, est-ce que vous aimez bien l'un d'eux à qui il arrivait parfois de se moquer et des taureaux et des toreros, qui était Monterland? Est-ce que vous aimez la façon dont il parle de corrida?
Écoutez, moi je dois dire que j'ai été un peu bluffé parce qu'il a essayé. Il s'est retrouvé dans des arènes espagnoles, j'aime bien. De toute façon, j'aime beaucoup les nuances qu'il y a dans la façon de l'apprendre. Ça serait affreux que tout le monde prenne la course de taureau dans le même sens.
Vous, qui êtes écrivain, Florence Delay, d'un point de vue strictement personnel, est-ce que la corrida en tant qu'art a eu la moindre influence sur votre littérature, ou c'est simplement une chose sur laquelle vous pouvez écrire, ou avez-vous le sentiment que c'est ou un modèle ou une chose qui vous a...
Pour moi, absolument un modèle. Enfin, j'ai très peu écrit dessus parce que je ne suis pas capable. Mais torer avec joie, vivacité et exactitude, ben, moi je veux écrire avec joie, exactitude et vivacité. Oui, c'est un modèle.
Et alors, quand on écrit, qu'est-ce que c'est le taureau? Qu'est-ce qu'il faut vaincre? Quel est le taureau qu'il faut vaincre? Parce que vous avez cité tout à l'heure les risques pour qui il s'agissait de vaincre, en gros, des pudeurs, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a...
Moi, je ne sais pas, d'une certaine façon, ça dépend si c'est un roman ou un essai, mais moi, dans mon roman, j'ai tenté d'aborder une question qui m'inquiétait, qui m'effrayait. Le problème basque dans Etchemendi, la question du maître dans tel autre, dans quelque chose qui m'inquiétait. Et je ne suis pas rassurée du tout quand je vais aux arènes.
Parce que vous craignez quoi ? Que ça soit médiocre
tout.
Ou que ça soit...
Je crains la médiocrité, la mort, le carnage. Parce qu'il y a aussi d'effroyables visions. Je crains tout.
Est-ce que le risque de la corrida, outre ce que nous avons dit, n'est pas, et aussi quand on écrit sur elle et quand on en parle, l'esthétisme ?
Mais je ne comprends pas ce que vous appelez esthétisme.
Eh bien, c'est-à-dire
prendre
une posture relative à la mort, par exemple. Je suis en train de chercher, au moment où je vous parle, une phrase de Cocteau que j'aime beaucoup, mais qui dit, dans la corrida du 1er mai, « Le taureau n'est que l'ambassadeur de la mort ». Vous voyez,
exagéré, ça. Non, parce que le taureau, il est aussi le représentant de lui-même. Bon, il a vécu des années magnifiques, à travers des pâturages, la liberté, etc. Il a vécu la vie la plus heureuse des animaux qui sont sur cette planète. Et c'est parce qu'il est un taureau bravo qu'il a ses 15 minutes dans l'arène avec un combat avec l'homme réglé. Et voilà, il a une belle vie, le taureau. Quand vous voyez les élevages dans ces magnifiques campos andalous ou du nord de l'Espagne, vous dites que, bon, c'est pas... Je voudrais bien être taureau aussi.
Il y a quelque temps, créant un grand tapage, la chaîne de télévision espagnole Telecinco a prétendu que la moitié des toreros vivants étaient gays. Et bien que croyait-on, ils portent des chaussettes roses et des collants moulants, des caracos à perles, des broderies à l'effigie de la Vierge. Les écrivains qui se passionnent pour elles sont souvent Jean Cocteau, Henri de Monterland, Federico Garcia Lorca. J'ai prêté ma bouche à un poète pour commencer cette émission. Prêtons-la à Lorca pour la finir. Lorca, qui était gay à une époque où cela ne pouvait pas se dire, a sans doute tiré de ce secret obligé, dans sa poésie, tout un art de l'esquive et de l'escapade, comme qui dirait des effets de cape dans une corrida. Il frôle l'érotisme sans jamais le nommer. Voici la fin du chant funèbre pour Ignacio Sánchez Mejías, un torero, dans la traduction d'André Bellamiche. Il n'y eut prince à Séville que l'on pût lui comparer, ni d'épée comme la sienne, ni de cœur si véridique. Quel torero dans l'arène, quel montagnard en montagne, qu'il était doux dans les blés, dur avec ses éperons, tendre parmi la rosée, éblouissant dans les fêtes, terrible avec les dernières banderilles de ténèbres. Mais voici qu'il dort sans fin, voici que la mousse et l'herbe, avec des doigts infaillibles, ouvrent la fleur de son crâne. Voici que son sang avance, en chantant, par les marais salants et les prairies, glissant le long des cornes toutes froides, sans âme trébuchant dans le brouillard et se heurtant à des sabots sans nombre, comme une longue, obscure, triste langue, pour s'étaler en flaque d'agonie près du Guadalquivir des étoiles. Ô mur blanc de l'Espagne, ô noir taureau de peine, ô sang dur d'Ignacio, ô rossignol de ses veines, non, je ne veux pas le voir, car il n'y a pas de calice pour le contenir, pas d'hirondelle capable de le boire, pas de givre de lumière pour le glacer, pas de champ, de déluge de lys, pas de cristal pour le couvrir d'argent. Non, je ne veux pas le voir. C'était Secret professionnel, le 81e. La semaine prochaine, je parlerai du secret professionnel du Théâtre du Rond-Point. Réalisation, Clotilde Pivin. Attachée d'émission, Catherine Donnet. Prise de son, Guillaume Ledu. Recherche, Ina, Véronique Jolivet. Dans un instant, Ville-Monde.